poule aux vanilles,
pistache,
j'aime bien framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille !
Bonjour à toutes et tous, c'est Léa et vous êtes sur le 94 FM. C'est l'heure de Deux boules vanille, l'émission estivale de Canal B diffusée tout l'été, du lundi au vendredi à 17h et rediffusée le lendemain à 9h. Que vous soyez plutôt glace italienne en pot ou cornet croustillant avec supplément chantilly, dans Deux boules vanille, il y en a pour tous les goûts. Playlist originale, reportage, interview, laissez-vous porter sur les ondes de Canal B. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon amour du documentaire sonore de création, ce format radiophonique qui vise à créer un univers singulier à partir de sons du réel. Il y a quelques jours, je me suis entretenue avec Laure Marty-Anaori, réalisatrice de la pièce sonore « Langue de l'intérieur » consacrée aux langues régionales et notamment à l'occitan. J'ai eu un véritable coup de cœur pour sa pièce, que vous aurez le plaisir d'écouter dans son intégralité juste après l'interview. Mais tout de suite, place au duo occitan Cucagna avec leur titre « Colorina de rose ». Du duo Cucagna. Amis rennais, rendez-vous le samedi 1er août place de la mairie pour voir ces talentueuses musiciennes sur scène dans le cadre du festival Transat en ville. Et tout de suite, l'interview de la créatrice sonore Laure Marty-Anaori. Bonjour Laure.
Bonjour Léa.
Vous êtes créatrice sonore, vous avez suivi une formation initialement en journalisme à Lannion, puis vous avez intégré le master Créadoc, qui fait partie de l'université de Poitiers et qui est centré sur l'écriture et la réalisation documentaire. et lors de la première année de ce master, qui est consacré à la réalisation sonore, vous avez réalisé L'angle de l'intérieur, qu'on écoutera à la suite de notre entretien. Pour débuter, de quoi parle votre documentaire en quelques mots ?
L'angle de l'intérieur, en quelques mots, ça parle de... C'est une quête finalement intime pour essayer de comprendre pourquoi des langues se transmettent d'une génération à l'autre et pourquoi, dans certains cas, elles ne se transmettent pas. Essayer de comprendre ces transmissions qui sont souvent manquées. Et l'angle de l'intérieur, du coup, ça parle de mon propre vécu dans ma propre famille avec l'occitan qui s'est perdu. Et c'est un chemin sonore entre la langue occitane et la langue bretonne et entre différentes familles et différents types de transmissions.
Dans votre documentaire sonore, on assiste à plusieurs récits qui s'entremêlent, des récits intimes liés aux langues régionales. D'où vous est venue cette idée ?
En fait, ça, je pense que ça fait bien 3-4 ans déjà que je pense à ce documentaire et que ça me travaille parce que, comme vous l'avez dit très justement, j'ai fait des études de journalisme en Bretagne. Moi, à l'origine, je viens d'une ville à côté de Toulouse. Et quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai rencontré les Bretons, et notamment un ami qui s'appelle Louis et qu'on entend d'ailleurs dans le documentaire. Et cet ami est très chauvin de la Bretagne, il adore la Bretagne, il ne fait que parler de la Bretagne. Et moi aussi, je suis très chauvine et je ne fais que parler de l'endroit d'où je viens parce que j'aime beaucoup cette ville. Et un jour, dans une de nos discussions, il me dit « Mais tu parles tout le temps du Sud, mais tu n'as pas l'accent, comment ça se fait ?» Et je lui raconte qu'en fait, j'ai perdu cet accent quand j'avais environ 11 ou 12 ans, puisque je faisais du théâtre et qu'on m'avait dit qu'il fallait que je perde cet accent si je voulais en faire de manière professionnelle. Et en fait, quand il m'a entendu dire ça, il m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte de la richesse que tu as perdue. En fait, tu as perdu un bout de cette langue occitane. » Et donc là, ça m'a fait tilt. Et je crois que c'est la première fois où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet, de pourquoi mes ancêtres qui vivaient dans la ruralité, eux, ils parlaient que occitan, et comment ça se faisait que moi, en 4 générations, j'ai perdu cette langue et j'ai perdu l'accent. Et c'est comme ça qu'est né ce documentaire, c'est de ces questionnements-là sur spécifiquement du coup l'occitan et le breton, puisque ça a été dans mon histoire personnelle, dans mon chemin personnel, ça a été les deux langues que j'ai pu rencontrer. Et voilà.
Est-ce que vous aviez un ou plusieurs objectifs avant de débuter le tournage de votre documentaire ?
Je crois que j'avais vraiment envie de raconter, la question de ma place, de savoir est-ce que j'allais vraiment parler de moi, ça a été un questionnement qui a duré longtemps pendant le processus de création. Je ne savais pas vraiment trop quelle place me donner, est-ce qu'il fallait que je parle de moi ou non. Et au final, je me suis rendu compte que c'est mon histoire qui lie la langue bretonne et la langue occitane et que du coup, c'était quand même important qu'elle y soit. Donc du coup, par rapport aux objectifs, je pense que je voulais vraiment qu'on entende ces deux langues. J'avais envie qu'on entende ces histoires de transmission. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'intime. Et j'avais envie de plonger dans l'intimité de ces personnes-là qu'elles me racontent, parce qu'une langue, c'est très intime, en fait. C'est ça dont je me suis rendu compte. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aller vers cette intime-là et surtout aussi de... Parce que je me suis rendu compte au fil de mes recherches que même encore maintenant, il y a énormément de stéréotypes autour de ces langues-là. Enfin, c'est souvent la langue un peu des campagnards, c'est la langue des anciens. Et en fait, j'avais aussi envie de montrer que c'est pas uniquement ça. Et qu'en fait, il y a des jeunes qui essayent de se réapproprier ces langues, notamment à travers l'art et notamment à travers la musique. Donc là, voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu ces deux objectifs qui m'ont tenu pendant tout le processus.
Et pour poursuivre un petit peu sur cette question des étapes du processus créatif, une fois qu'on a posé ses intentions, j'imagine, sur papier, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, faut se lancer. Moi, j'ai commencé direct à enregistrer. Je suis partie une semaine en Bretagne. J'ai passé une semaine avec cette amie où j'ai enregistré, mais des heures et des heures. On a fait vraiment un road trip à travers toute la Bretagne avec ma voiture, où il me montrait un petit peu ses points d'intérêt. Enfin, il est allé montrer son lycée dans lequel... lui, il était dans un lycée en immersion où il ne parlait que breton. Il m'a montré son lycée. Il m'a montré la maison où est née sa grand-mère qui est en centre-Bretagne, qui est perdue dans un hameau. Et donc, en fait, j'ai fait que enregistrer au départ pour gagner plein de matière. Et puis après, c'est posé la question, quelle place j'allais prendre dans ce documentaire. Et c'est ensuite où, du coup, j'ai décidé de partir enregistrer ma grand-mère. Donc ça a été autour de Noël, donc ça faisait déjà bien 4 mois que j'étais dessus. Et puis après, je me suis rendu compte que en fait, je pourrais pas avoir toutes mes réponses avec ma grand-mère, puisque je le dis dans le documentaire, mais elle est malade et que la langue, elle est déjà partie, elle est déjà plus vraiment là, en fait, dans ma famille. Et donc du coup, c'est parce que je me rends compte que la langue n'est plus vraiment là que je me rends compte qu'il faut que je parte ailleurs, que je trouve une autre famille qui, elle, parle encore l'occitan. Et c'est comme ça que ma rencontre avec Laurent, le professeur d'occitan, enfin celui qui m'apprend l'occitan, c'est comme ça que ma rencontre a eu lieu avec Laurent. Et ensuite, Laurent m'a présenté sa fille. Et donc, en fait, voilà, tout s'est... En tout cas, pour moi, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de vraiment tout s'est découlé, en fait, d'une rencontre. Après, ça en est suivi. Enfin, ça a été quelque chose de très, très logique.
Parlez-nous peut-être davantage de cette rencontre avec Laurent et Violette, sa fille. J'ai trouvé que c'était des moments très chaleureux dans le documentaire et notamment parce que Laurent a une manière d'enseigner l'occitan qui est très incarnée. Il défend vraiment l'idée qu'une langue, ça doit être presque performée, en tout cas ressentie à travers tous les pores de sa peau, de son corps et de son cœur. Et racontez-nous un peu plus cette rencontre avec Laurent.
Oui, en fait, Laurent, on m'en a beaucoup parlé dès que, enfin, même il y a 1 an de ça, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce sujet et que je commençais déjà à faire des recherches, puisque Laurent, donc, c'est un homme qui fait du théâtre et qui fait du doublage. Et en gros, lui, il apprend aux comédiens francophones à parler occitan et il apprend aux occitanistes à faire du théâtre. En gros, c'est un peu ça sa méthode, qu'il appelle la tricherie occitane. Et donc, donc du coup, ça faisait, enfin, on m'avait parlé plusieurs fois de lui. À chaque fois, je retrouvais ce nom. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, il revient tout le temps. Il faut que je le contacte. Et en fait, au moment où je le contacte, quelques semaines avant, et c'est ce qu'il raconte dans ce documentaire, c'est que quelques semaines avant, sa fille est venue le voir pour lui dire, mais en fait, pourquoi t'as arrêté de me parler occitan quand j'étais petite, quand j'étais adolescente? Maintenant, je veux que tu me le reparles. Et en fait, mon arrivée et cette discussion avec sa fille est arrivée presque en même temps. Vraiment, je crois que ça a été à quelques semaines d'écart. Et je pense que ces deux moments, je pense, se sont fait un peu écho dans sa tête, et donc ce qui fait qu'on a lié une vraie amitié avec Laurent. Puis en plus, je pense que, comme je l'ai dit, moi j'ai perdu mon accent en faisant du théâtre, et donc là, quelque part, vu que lui c'est un homme de théâtre, retrouver et reperformer l'occitan avec le théâtre, je pense que ça avait quelque chose de très symbolique dans mon parcours et pour moi. Et donc cette rencontre s'est faite un peu naturellement, comme ça. Et depuis, on garde toujours contact et on se voit régulièrement. Et oui, c'est devenu un véritable ami, quoi.
Et donc c'est vous qu'on entend en train de pratiquer lors d'un cours.
Tout à fait. En effet, c'est bien moi qu'on entend. C'était pas facile, hein, de se mettre, parce que c'est assez vulnérable. Enfin, moi, je me trouve assez ridicule par certains moments. Mais comme de toute façon, tous mes personnages, à un moment, sont vulnérables parce qu'ils parlent d'eux, parce qu'ils parlent de leur intimité, je trouvais que c'était de l'honnêteté de aussi me montrer vulnérable. Enfin, je trouvais que c'était important, de moi aussi, montrer une fragilité, quoi.
Du coup, j'ai une question par rapport au tournage et la manière dont il s'est organisé. Vous êtes à la fois personnage, réalisatrice, et en même temps, vous avez enregistré vous-même le documentaire. Comment ça se passe dans ces moments-là où on sait qu'on est en interaction avec une personne, on a soi-même un rôle à jouer? Voilà, vous étiez la personne, l'étudiante dans un cours d'occitan. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau du dispositif d'enregistrement pour que ce soit accessible aux auditeurs et aux auditrices?
Oui, tout à fait, c'est une question vachement intéressante. En fait, tout le long du tournage, quand je tournais des scènes avec mes autres personnages, c'était moi qui tenais le micro à la perche. Et donc, ce qui fait que souvent, quand on m'entend un petit peu dans le fond. Et en fait, les seules fois où j'avais envie qu'on m'entende, mais cette fois de l'autre côté, donc c'est-à-dire face au micro, c'est les moments de ma voix off où je lis ce texte que j'ai écrit. Et c'est aussi les moments où, pendant le cours, je déclame et où je fais de l'occitan. Et donc, par exemple, pour le cours, du coup, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, il faut que j'ai un dispositif qui me permette d'être devant le micro et pas derrière. Et donc, du coup, j'ai mis un trépied, tout simplement, où j'ai allumé le micro. Puis après, j'ai vérifié, j'ai fait les tests. Et après, je me suis mis devant le micro et le pied a tourné pendant les 2 heures de cours. Donc, ce qui fait que j'avais un rush vraiment très, 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 très long. Et puis après, j'ai pu faire mon montage. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment eu ces dispositifs d'enregistrement qui ont... J'ai vraiment fait en sorte que ça dépende du moment, parce que je voulais à la fois qu'on ait cette... Enfin, que quand on m'entende, des fois, ce soit dans le fond, et que quand on m'entende de face, ce soit parce qu'on parle de moi et de mon histoire, quoi, tout simplement.
On parlait tout de suite de transmission intergénérationnelle et c'était très touchant d'entendre à la fois Louis et sa grand-mère, vous-même et votre grand-mère, Laurent et sa fille Violette. Mais la transmission, ça passe aussi par la musique et elle prend une place assez importante dans votre documentaire. J'étais ravie parce qu'on entend le duo Coucagne. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé,
Oui, c'est bien comme ça.
mais voilà, ce groupe, ce duo occitan, deux femmes revendiquées féministes, très proches des luttes locales, que j'admire beaucoup. Et du coup, on les entend en train de faire leur balance, si j'ai bien compris. Voilà, parlez-nous un petit peu de la place, peut-être de la musique en général dans vos documentaires, parce qu'il y a aussi des passages où Louis rappe en breton. Voilà, qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait avec ces musiques-là?
En fait, je crois que j'étais très intéressée par l'idée de comment les jeunes générations se réapproprient leur langue maintenant. Et donc, par exemple, dans le travail, les travaux de Kukan, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est du moins les chansons à l'origine de leur groupe, elles retravaillaient énormément les chants traditionnels en corrigeant tous les aspects sexistes qu'on peut retrouver dans les chants traditionnels. Et je trouvais cette démarche très intéressante. Puis j'étais vraiment très fascinée par leurs instruments, ces tambourins des Pyrénées. Enfin, je vous invite à regarder, pour ceux qui nous écoutent, à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment des instruments qui sont très beaux. Et je suis assez obnubilée par tous les sons percussifs. Et donc forcément, la musique de Koukaï m'a beaucoup appelée. Et j'ai vraiment adoré. Ensuite, Louis, c'est donc un ami que je connais depuis maintenant quelques années, et je l'ai vu vraiment éclore sur la scène rap bretonne, puisqu'il y a une vraie scène rap bretonne avec beaucoup de rappeurs émergents. Et le groupe de Louis, qui s'appelle Octo H, il émerge vraiment. Ils font des concerts un peu partout en Bretagne, même partout en France, et c'est vraiment, voilà, donc c'était très important pour moi qu'on l'entende. Et donc il y a cette musique qui revient. Et moi, j'étais vachement intéressée par les sons de balance, les sons de répétition, parce que je trouve que c'est des moments où, quand on répète, c'est des moments très intimes, où on a cette langue pour nous, et donc du coup, ça rappelle un peu le titre de Langue de l'intérieur. Et c'est pareil aussi, on entend Violette qui, elle, répète un texte de théâtre, c'est pas de la musique, mais c'est un texte de théâtre. À la fin, c'est ce qu'on entend. Et donc, à tous les moments où j'ai enregistré ces moments un peu de fragilité, où on répète pour soi, où on se prépare à le rendre public. Moi, c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'était ces sons-là. Et donc, du coup, je trouve que les sons de balance de Koukani, je sais pas, je les trouvais très intimement liés avec ces histoires de transmission. Et le fait que ce soit des balances, donc du coup, des fois, c'est des sons qui sonnent un peu faux, on entend les voix qui s'échauffent. Enfin, je trouvais que c'était très révélateur de tout ce que je disais dans le texte de ma voix off, autour de cette langue de l'intérieur, mais qu'à un moment, il faut que cette langue de l'intérieur, elle sorte, il faut qu'on la rende publique. Et donc voilà, c'est un peu tout autour de ce symbolisme que j'ai essayé de travailler et qu'on entend la musique tout le long du documentaire.
Oui, c'est très intéressant parce que la rendre publique, c'est, enfin, forcément, quand on entend le pied frapper au sol lors des balances, parce que ce groupe, bon, Koukaïn, je suis fan, hein, on l'aura compris, mais du coup, elles interprètent aussi, elles chantent pour que les personnes dansent. Et du coup, voilà, moi, en entendant ce pied qui tape contre le sol, tout de suite, je me suis remise un petit peu dans cet état des bals traditionnels. Et du coup, ça fait aussi un lien avec la manière dont Laurent, ce professeur d'occitan, vous invite aussi, vous, jeune étudiante en langue, à vraiment ressentir dans votre corps ce que vous procure la langue. Et c'est vrai on peut entendre en fait que les langues régionales, c'est un combat du passé. Et en fait, en entendant ces corps, voilà, on peut juste en fait se dire que non, non, c'est des langues bien vivantes, extrêmement incarnées dans le présent. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans le documentaire.
Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, Laurent a cette phrase où il dit la langue, elle doit passer par le corps. Et si tu as cette langue dans le corps, on ne pourra pas te dire que tu parles mal cette langue. Et ça, je trouve ça très beau et très vrai. Et c'est, je trouve que c'est, enfin, encore une fois, c'est très lié avec le travail de Koukagne et toute cette mouvance du bal traditionnel. Enfin, il y a vraiment un truc qui passe par le corps, quoi. Et moi, ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant.
Et peut-être pour terminer cet entretien, la réalisation d'un documentaire sonore, c'est des mois de travail. Et dans quelle mesure vous diriez que ce processus de création vous a-t-il transformé?
Oui, alors oui, il m'a forcément transformé parce qu'il a fallu que j'aille gratter un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau de ma famille. La séquence où on entend ma grand-mère, je pense que ça a été la séquence la plus dure à monter, qui a mis beaucoup de journées de travail et qui a été très difficile à entendre. Même encore maintenant, c'est, je pense, assez compliqué à réécouter pour moi. Donc je pense que ça m'a beaucoup transformé aussi parce que ça m'a forcé à affronter la réalité de la maladie de ma grand-mère et du fait qu'il y a une mémoire qui s'est perdue et qui n'existe plus. Mais je pense que le travail que j'ai fait, le lien que j'ai tissé avec Laurent puis avec Violette et l'amitié qui perdure depuis, je pense que ça donne aussi beaucoup espoir. Et puis, ben, je pense que surtout, l'élément le plus important de ce documentaire qui m'a transformée, c'est ma volonté maintenant d'essayer d'apprendre l'occitan. Donc d'essayer de réapprendre cette langue qui s'est perdue dans ma famille. Et ça, je pense que sans ce documentaire, je ne l'aurais pas fait. Et là, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien. Donc voilà, et je dirais que aussi, là, c'est mon premier documentaire sonore. Et je pense que le fait d'avoir réussi à en finir, enfin, d'avoir enfin, enfin, que l'idée ait abouti à un projet concret, je pense que c'est aussi, ça donne... En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné confiance en moi de me dire, OK, tu peux le faire, quoi.
Merci beaucoup Laure.
Merci beaucoup Léa.
On écoute tout de suite le documentaire sonore « Langue de l'intérieur » de Laure Marty à Naori.
Une fenno cavio une ville qui est robuste.
Ça, je comprends.
Et alors, ça dit quoi? Pas de le tour de France.
Une fois, une femme avait un fils qui était bossu.
Ok.
Il y en a un, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas,
il n'y va pas, tu es voussu. Il préfère faire le tour de France.
Une pièce de 40 sous.
Une pièce de 40 sous. C'est qu'il y a 40 sous.
Quand j'ai caminé un parc, une trapouille qui dit un bail voussu. Mal appris, mal honnête, pour ne pas dire camarade, un bail camarade. Mais bon, pas mon tour de France.
Ça disait quoi?
Le gars qui te rencontre lui dit où tu vas, bossu. Mais tu peux pas me dire comme tout le monde où tu vas, camarade. Alors maintenant, il lui dit en français, disons.
Mm-hmm.
Et voilà, tu vois, il va faire le chemin ensemble. Tu en comprends, là, non?
Ah non, moi je comprends rien, mamie.
Que se passe-t-il quand on ne trouve plus ces mots? La langue reste coincée, immobile. Que se passe-t-il quand on ne parle plus la même langue que ses ancêtres? Que devient la mémoire familiale si on a oublié sa propre langue?
C'est la langue de l'intérieur, c'est la langue de ceux qui ont eu des douleurs, c'est la langue qu'on a enlevée à des personnes, c'est la langue à qui on a dit aux Bretons comme aux Occitans, vous ne parlerez plus, vous ne direz plus je t'aime dans votre langue, vous direz je t'aime en français, point barre.
Langue de l'intérieur. un documentaire de Laure Marty-Anaori. Pour une fille du Sud, tu n'as pas l'accent. C'est Louis, un ami qui a prononcé cette phrase il y a quelques années. Lui, sa langue de breton est sortie. Il en est fier.
Ouais, pour moi, le breton, c'est un peu ma vie. Bah, surtout que tu le sais, j'ai un vécu un peu particulier dans le sens où j'ai de mes 2 à mes 18 ans, j'étais scolarisé en breton. Mon père me parle breton, travaille en breton, mes parents se sont rencontrés en apprenant le breton. Ça fait beaucoup de breton, quoi. Bah, sans breton, il n'y aurait pas de Louis Blanchard, hein, ce serait un autre.
En 10 parties, Grande France, vos 10 par d'ailleurs, en 10 par Nalinke Dondastis, on a des Gandhi bar, et je suis en 10 car rappé Brison Eco Dior.
Pour ce moment, ouais, je fais du rap en breton.
C'est Emoroid, DNG, Arab Gal.
Je suis en dans un duo qui s'appelle Octoash avec mon pote Noé.
Ah, j'ai du mal avec celle-là. Je recommence. Punketa verser, te fais rien dire sur ni à son jarme meustra, tu vas ramener l'estradure, avoir d'arrêtio brain, tremen en observa, gourvez
banque. C'est vrai que j'ai commencé un peu en français, mais très vite, on s'est redirigé vers le breton parce que c'est notre langue, parce qu'on a envie de la porter, parce qu'on a envie de la faire vivre, parce qu'elle nous fait vivre aussi. Et que on n'a pas toujours des relations hyper faciles avec notre langue, dans le sens où on a du mal à parler entre nous. C'est une façon pour nous de nous y reconnecter aussi et de progressivement la réintégrer dans nos quotidiens.
Bon, et là on a pensé à manger un petit pain.
Ce serait pas mal.
C'est pas mal, t'as faim, tu vois.
Ça a un peu faim, ouais.
Alors, tout le monde a faim, sans doute. Est-ce qu'un potage de légumes, ça vous va? Du bourguignon? Mais mes pommes de terre sont pas cuites, moi.
Oh là là, même.
Attends, il faut bien bon, du coup.
Je mets les assiettes.
Alors, attends, oui.
Ça là, on met celle-là.
On a des invités, on a une invitée. Alors, on va faire les choses quand même. Sortir des jolies assiettes.
Même moi, je ne les ai jamais vues carrément.
Elles ont beaucoup servi.
Mais je crois qu'elles n'ont pas servi depuis longtemps, maintenant. Parce que celle-là, moi, j'ai toujours celle-là. Hein.
Ah ben
mais ça me va d'avoir celle-là, je préfère celle-là.
Oui, mais je t'ai pas assez d'assiettes. Je veux bien. Notre langue maternelle, c'était le breton. J'avais quelques années de moins que mes 3 aînés, évidemment, et donc ils allaient déjà à l'école, si bien que j'ai été bercée un petit peu par les 2 langues. Mais quand je suis allée à l'école, j'ai quand même fait un stage de 15 jours chez mon parrain, dans la famille de mon parrain, une famille qui parlait plus le français que le breton.
C'est la honte.
Mais elles ont forcément un peu plus souffert, quoi.
Ah,
non,
on est là pour parler de breton.
Et ce que j'aime dans le breton, justement, c'est que ça traduit des émotions que je ne ressens pas de la même façon quand je parle français. Il est plus capé que moi, hein. Déjà, il est plus... Voilà.
C'est là qu'il est erreur.
Et donc, on ne parle pas tout à fait le même breton. On va dire qu'il parle le breton académique et moi...
Le néo-breton.
Le breton, pour, comme disait Angela Duval, pour envoyer les vaches au champ, quoi. Hein. Ouais, mais c'est un peu ça, quoi.
Et encore une fois, toi, tu fais une hiérarchie entre les deux, alors pour moi, le vôtre, il est justement au contraire bien plus riche parce que vous avez bien plus de vocabulaire, tu vois. Nous, la plupart du vocabulaire qu'on a, en vrai, c'est... On a quelques mots en plus, des nouveaux mots, tu vois, mais en vrai, globalement, les mots, vous en connaissez plein, juste d'autres, tu vois.
Mais souvent, tu mets une hiérarchie entre les nôtres, entre les Bretons, alors qu'en vrai...
Non, je pense que même sans vouloir la mettre, il y en a quand même une,
je pense pas.
On a compris rapidement, chez nous en tout cas, que le fait de parler breton, ça n'était pas un handicap.
C'est en entendant parler breton que j'ai eu envie de retrouver l'occitan.
Je vous présente, je ne sais plus comment, je mélange tout là, enfin bon. Ah mais il me dit, je le connais, c'était Jean-Michel, non Jean-Michel, mais c'est toi, non je ne sais plus qui c'était.
C'était Fernand que tu lui présentais.
Et
ben, c'était Fernand que tu lui avais lui présenté.
Ah ben oui, c'était Fernand que tu lui avais lui présenté.
N'a pas servi de ni la danse, ni la technique de la distance.
Mais la mémoire de ma grand-mère s'effrite. Elle se perd. Elle se vide. La langue est partie avec elle. Mamie, comment on dit tu me manques en occitan?
Faut pas taper le micro.
Mais je tape que les poils.
Ah oui, mais si, si tu tapes les poils, après ça s'entend au micro. Mais bon, on s'en fiche en vrai.
Ah d'accord, bon, allez, je fais plus rien.
Et mamie, tu sais, tu te souviens pourquoi je voulais t'enregistrer ou pas?
Non.
Non. Parce que du coup, je fais. Donc, je fais un documentaire.
Tu veux t'asseoir?
Ouais, c'est bon, je pense aussi.
Hop.
Tu fais un documentaire sur...
Sur l'occitan.
Ah, oh ben alors moi, l'occitan, tu sais, je le comprends. Je comprends tout. Tu veux me dire me raconter une histoire en occitan, je la comprendrai. Mais je ne te répondrai pas en occitan.
Ok. Et tes parents, ils sont allés à l'école, eux?
Oui. Mais Pépé Louis, le père à papa, à Alfred, ton arrière-grand-père, disons. C'est,
oui.
Eh bien, lui, il avait appris le... Il avait pas appris le français. Galinée. Elle était dans la cuisine. Viens ici, viens.
En fait, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Laurent.
Pépé Louis, oui.
Oui, c'est pas le...
Oui, c'est l'arrière-arrière-grand-père.
Ouais.
Pépé Louis. Oh, lui, Pépé Louis, il aurait été content d'en connaître davantage. Il voulait voir la famille s'agrandir, lui.
Mmh.
Et mon grand-père, je l'ai appris à parler français.
Ah oui?
Oui.
Ah, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même un moment où tu parlais patois avec ton grand-père. Au début, tu communiquais avec lui en patois.
Non, lui, il me parlait patois, mais je lui parlais français et il essayait de me répondre en français. Je l'ai appris à apprendre le français.
D'accord.
J'ai fait l'institutrice de mon grand-père. Oh, disquette, mèche, esplat, pitou, à quoi? Oh, il disquette, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Mèche, esplat, pitou, à quoi?
Mais pas toi, ça t'ouvre pas beaucoup, à part dans l'agriculture,
il y a oh, non.
Moi, je trouve que le patois, ça amène pas mal de choses.
Oh là là, compliqué. C'est plus facile de transformer la parole patois en français que comme ça. Là,
hein. Mais tu sais que c'est quasiment les plus... Enfin, quand tu apprends une langue, c'est la plus difficile, en fait, le truc de traduction. Mais toi, pour toi, c'est plus difficile de le lire. C'est marrant.
Oui.
C'est intéressant.
Et
c'est intéressant. Bah c'est peut-être parce que tu as fait plus l'effort de le comprendre plus que de le parler, en fait, tout simplement.
Oui, c'est possible, oui.
Kurdish.
Ah bah oui, mais nous, t'es la seule, t'es la plus calée en occitan là. Hein.
Alors là, je comprends pas très bien. Hein. C'est pas l'occitan d'ici, ça. Garda. Garda-va, garde-le pour toi. Ça veut dire ça. Garde-va pour toi. Garda-va, perdu. Garde-le pour toi. Ça. Et. Et qu'est-ce qu'il fait?
Ça veut dire quoi, ça?
Et qu'est-ce que j'ai fait?
La langue est trop loin dans sa bouche. Inatteignable. Alors je suis de nouveau partie. Toujours en quête de la langue perdue.
Je prends un stylo.
Ouais, tu veux un stylo, je crois qu'il y en a. Regarde là sur la table, il y en a voilà, un paquet là qui traîne.
Sinon, je pense que j'aurais pas mis. Ah, bon, là.
T'en as,
ouais.
Ouais. Ouais, sachant que si, au fur et à mesure, quand je dis que le. Tu vois, en haut, je dis sans règle précisée ci-dessous, l'occitan se prononcera comme le français.
Okay.
D'accord. Donc c'est vraiment important. Le U, c'est pas comme en espagnol ou comme en italien. Oui. Le I, voilà, le U reste U. Et comme ça ne sera pas signifié dans la tricherie, ça veut dire que tout ce qui n'est pas dit, c'est comme le français.
Okay.
À la lecture. Tout ce qui sera dit va te permettre de parler languedocien d'Albi façon Laure Marty d'Albi.
Oui.
Mais voilà, c'est parti. À toi.
Village. Village.
Bien.
Alphonse.
Descends encore plus.
Alphonse.
Voilà. Toutes les syllabes se disent. C'est-à-dire qu'à l'inverse du français, l'occitan, tout se dit. Alphonse.
Alphonse. Ce.
Alphonse.
Alphonse. Donc du coup, ça serait fromage.
Exactement. Okay. Fromage.
Fromage.
Oui.
Ok. Carnage.
Oui.
Orage.
Encore plus. Tu peux encore plus prendre le temps.
Ok. Orage.
Oui, très bien.
Ok. Donc là, c'est karaté.
Exactement.
Ouvrage.
Oui.
Atelier.
Oui.
Nuage.
Ouais.
Vache. Donc là, c'est écrivain.
Très bien.
Montagne. Dimanche.
Plus.
Dimanche.
Plus.
Dimanche.
Plus.
Dimanche.
Voilà, laisse, libère les mots. Dimanche.
Dimanche.
Ouais, super. Alors, le E final se dit E. Alors, attention.
Ah, il faut garder l'accent tonus.
Il faut, en fait, c'est ça le jeu. C'est que chaque fois qu'il y a une règle qui arrive, celle d'avant est assimilée.
Ok.
On voit le truc ?
Moi, je suis né donc dans une famille d'agriculteurs et d'agricultrices. J'en vivais avec les grands-parents. Mes parents ne parlent pas un mot d'occitan. Mes grands-parents, entre eux, se parlaient l'occitan. Uniquement en occitan. Il n'y avait pas un mot de français qui circulait entre eux. Jamais. Et comme c'était un vieux couple, et comme ils étaient vraiment, on va dire, un vieux couple dans le camp, pas tendre quand même. C'est-à-dire que l'occitan, ce n'était qu'un véhicule violent. Les gros mots, les... Donc pour moi, j'ai toujours entendu une langue extrêmement virulente. Et ça m'a pris comme ça, 12-13 ans. Je me suis mis devant la machine à laver la vaisselle et je me suis mis à parler qu'en occitan. Et là, moi-même, ça m'est sorti du corps, je ne savais pas d'où ça venait. Et je parlais, je parlais, je parlais, je parlais.
Je m'appelle...
Le E final se dit « et ».
Je m'appelais.
Le E final se dit E.
Je m'appelais.
J'ai.
J'ai m'appelais. Laurée. Ou les prénoms.
Laurée.
L'oré.
Oui. Ok. Mes enfants, je leur ai parlé en occitan dès l'enfance. Donc, ils ont eu très souvent la langue depuis bébé, à la naissance. Arrivé à l'adolescence de mes enfants, j'ai arrêté net. Parce que je ne pouvais pas dire les mots importants de l'adolescence, régler des conflits, parler en tête à tête. Je ne pouvais pas plus le faire en occitan. C'était quelque chose que je pense que ma culture, mes parents m'ont toujours parlé en français. Et je pense que sur les choses importantes, on ne parle pas en occitan. Ben jusque-là, Noël, là, dernier, où ma fille me dit « Reparle-moi », me reprochant un petit peu, gentiment, que je ne lui parlais pas plus en occitan. Donc, elle me dit « J'aimerais bien que tu me reparles, quoi, en gros. » Putain, banco, on est reparti. Je me suis mis à parler, à lui parler. Et ben, chose extraordinaire, il s'est passé avec elle, comme moi, ça s'est passé quand j'étais jeune, c'est que la langue lui est venue, quoi. Assez facilement.
Il faut la faire sortir. Il faut qu'elle sorte, cette langue.
Mon rapport à la langue passe beaucoup par celui de mon papa. Et dès qu'on me demande toi tu parles et tout, je parle toujours de mon père. Je me dis, ah ben mon père il parle ça, il parle ça, parce qu'au final je ne peux passer que par lui. Parce que je n'ai pas d'histoire propre avec cette langue et j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu me la donner. Comme s'il a voulu comme s'il avait voulu la garder pour lui. Et je crois que ça, je lui en ai beaucoup voulu de ça. De me dire, partage-moi cette souffrance.
De l'intérieur vers l'extérieur. Cette langue.
Je pense qu'il avait ce désir-là de aussi cette langue, il faut qu'elle soit vivante, il faut qu'elle reste du plaisir. Et effectivement, des fois, ça devenait plus un plaisir pour moi parce que j'avais personne d'autre à qui la parler et que je la trouvais nulle et paysanne et pas légitime, pas belle. Et je pense qu'il a pas voulu m'obliger à la parler. Et maintenant, je lui redemande et il me la parle. Et je lui le parle. En tout cas, il y a eu un espèce de fossé où il n'y a eu rien. Mais je pense que c'était bien pour se rendre compte de la richesse qui me manquait. Mais il fallait l'entendre, ce manque.
Ridat, e che parlo lingue che ne conosci pas esprighe, pas un qui te moute. Mes sous-moutes sont tellement puissants, mes sous-moutes sont tellement puissants que j'ai la certitude que sous-moutes parle d'amour, cause d'amour.
En faisant ce travail artistique de dire « Ok, maintenant, je veux emmener cette langue au théâtre, sur une scène, pour les gens », eh ben, je crois que pour que ce soit pour les gens, il faut que ce soit pour moi. Et que j'arrivais pas à trouver les mots s'ils ne m'étaient pas intimes.
La fille arrive et lui demande « Pourquoi tu parles tout seul ?» Le très vieil homme, la serre très fort contre sa poitrine. C'est tellement puissant. J'ai oublié l'ousmoutz, mais pas le rêve, ni la petite fille qui a rempli ma vie de père. Moi, un de mes plus beaux moments de langue, c'est quand ma fille avait 3 ans. Je me tends les bras, je la cale dans le creux de mon nez à pâle, et elle me dit « Papa, que t'as mis hort, papa, que t'as mis hort. » Ma langue paternelle va mourir. Et je comprends enfin pourquoi mon père a du mal à me parler d'amour. J'ai un père sur la langue.
Si elle m'avait été transmise, j'aurais pu te comprendre, Paille. Et que peut-être nous puissions parler la même langue. Et qu'au lieu qu'il pleuve des baffes, il pleuve des mots. Des mots pour aimer.
Et qu'au lieu qu'il pleuve des baffes,
je les ai appris aujourd'hui, Paille.
Des mots pour aimer.
Aima. Agrado. Estima. Ses paima de joy. Samigaya. Esta de guste. Tous ces mots.
La langue proscrite.
Et non, toi, rien ne te vient.
Proscrite. Celle qui nous raconte nous.
La langue d'où
je viens. Les malotrus, les puants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on pue toujours, mais qu'on n'arrive pas à identifier d'où vient l'odeur. Et c'est ça qui te rend fou. Tu t'arraches les phalanges sur nos dos. Tu cherches désespérément la source. C'est ta propre odeur que tu sens, malheureux. Tous autant que vous êtes, vous pourrissez, vous tombez en poussière, comme une maladie génétique. Elle ronge, elle aiguise la fureur, elle aiguise la violence. J'ai vu, j'ai appris comment tu m'aimes. La violence n'a pas besoin de mots. Pourtant, en Occitan, il y a plus de 20 manières pour dire coup de poing, pour mettre une raclée. Baf, bouf, timplat, emplastro, soufflette, burmal, clapat, birbaiten, taburrado, desburrado,
chatabou. De mère en fils. De père en fille, la maladie se répand. Elle va s'arrêter, Paille. Elle va s'arrêter à moi. La maladie sera maîtrisée. Et je serai la dernière de la lignée de la honte. J'étoufferai dans mes tripes la honte. Et je m'habituerai à l'odeur. Je pleurerai nos mots défendus. Je pleurerai nos mères pendues par la langue. Elles existeront à nouveau, au travers de mes larmes. Si tu te rapproches de très près, tu verras. Tu verras la petite fille qui attendait dans sa maison. Elle attendait qu'un souvenir caresse sa joue. Il n'est pas venu. Juste le père collé sur sa langue.
Okay. C'est, en fait, ce qui manque, c'est des gens.
Le père dort.
En fait, l'Occitan,
il ne se réveillera plus.
On ne peut pas rester. En fait, la c'est surtout à nous, les importants. Son homme, voudrions dire, mon Dieu, forso, causos, en sumo. Tu vois, cette espèce d'exagération, en cambiare tout. Per exemple, agazas. Ok, tu vois, agressif. Hier, monsieur, ça a bien eu une telle nas. Il faut que tu exagères et que tu prennes du corps. Mais quel rio sur pic. Voilà. Ça, tant que t'as pas ça, tu peux pas dire que t'es dans la langue. Tant que t'as pas exploré, t'as pas fait l'expérience du corps, la langue, tu la parles pas. Quand c'est incarné, la langue est incontestable.
Okay.
On ne pourra jamais te dire que tu parles mal une langue si elle n'est pas dedans, parce que c'est vrai. C'est ça, ça vient de là, elle vibre.
Okay.
À toi.
Ok. À nous, est-ce une pauk courte, sous nomme, podrion dire, mudiu, forso, causas, en suma, en cambia luton, per exemple, agazats, agressiu, iu, mosu, sabio un tal nas, me cario sul pic que lo mapizzonesi, amical, mas de u trempa, dins vostro tasso.
Pronto.
Mas de u trempa, dins vostro tasso.
Oui.
Per deure, fazet fabrica leu un anac. Descriptiu.
Descriptiu.
Oui. Es un roc.
Oui, prends le temps.
Es un pic.
Ouais.
Es un cap.
Oui.
Que dis-y? Es un cap. Es uno.
Ouais, Orgasmico de la mezzanina.
La langue est sortie. La voix parle, enfin. Elle crie. Elle hurle. Elle chante. Langue de l'intérieur. Un documentaire de Laure Marty-Anaori. Réalisé à Angoulême en 2026 dans le cadre du Master 1 Écriture et Réalisation Documentaire Créadoc, UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers avec le soutien du pôle Image Magellis. Prise de son et réalisation Laure Marty-Anaori. Mixage Irina Villepreux. Visuel Valentin Forger. Merci à Anne et Louis Blanchard, à Laurent Labadie et Violette Esquéré-Labadie, au groupe de musique Coucagne. Merci à mon père, Franck Jean-Pierre Marty, et merci à ma grand-mère, Michèle Marty.
On parlait du patois, mamie, avant.
Ah oui, alors le patois. Non, moi, le patois, j'en comprends plein. J'en comprends plein.
T'as dit que tu ne m'as parlé pas, toi.
Non, j'en comprends beaucoup.
De Boule Vanille, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Merci encore à Laure Marty-Anaori de nous avoir présenté son travail. La semaine prochaine, Enora Giboire nous partagera sa pièce sonore Renvoi, où il sera question de justice face aux violences sexistes et sexuelles. Bonne journée à vous sur le 94 FM.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille!